Bien, merci de prendre place. Donc, je rappelle des généralités que tous les gens qui sont ici connaissent bien, mais enfin, peut-être pas. Les années ont fait, depuis la création de l'UTB, de générer la multiplication de différents ateliers et groupes de travail, en fait à la demande des uns et des autres, et on arrive presque à la vingtaine d'ateliers. Bon, ça a pu varier parce que certains s'arrêtent puisqu'il n'y a pas suffisamment d'amateurs, et d'autres se créent. Et on va balayer tout ça. Alors voilà les activités complémentaires. Alors on a mis informatique. Ça fait un an qu'on a arrêté l'informatique. On va continuer à l'arrêter, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire il n'y a plus d'amateurs pour l'informatique. À mon avis, pour la raison que tout le monde est à peu près équipé et se débrouille tant bien que mal avec leur matériel. Donc, j'excuse Benita Basson. Ça va? Vous m'entendez? Un peu juste? Le général. Montez le général. Oui, là, comme ça, c'est bon, là? Donc Benita Basson est absente, mais Michael, qui est là, parlera pour elle. Elle a laissé un petit message pour raconter un petit peu ce qu'elle propose. Donc Benita fait l'anglais faux débutant et Michael l'anglais intermédiaire. Donc tous les gens qui y sont savent bien de quoi il s'agit, mais on y viendra dans le détail. La conversation anglaise continue, donc c'est Tonya qui s'en occupe, et le chinois, donc Li Ronglu ne peut venir qu'à 15h, donc on l'attendra au moment de faire défiler les différents responsables d'atelier. Donc je rappelle l'atelier 3L de Catherine Weissmann, qui marche très bien, donc depuis 3 ans déjà, hein, c'est ça, Catherine, hein? L'histoire de l'art. Comme ça? Non, voilà. Là, comme ça? Là, c'est bon? C'est clair? Vous m'entendez? L'histoire de l'art de Mathieu Pinette, donc je rappelle qu'il, depuis plusieurs années, se passe à l'espace Jean Zay. Et l'œnologie, je fais un petit stop sur l'œnologie, on y reviendra dans le détail. La personne qui nous proposait cet atelier, qui était à Givry, et c'était le matin. Et depuis plusieurs années, on a du mal à atteindre le nombre de personnes suffisant pour créer un petit peu cet atelier. Et donc, on a trouvé une solution, et il nous a fait savoir qu'il souhaitait s'arrêter, non seulement s'arrêter de faire des animations d'œnologie, mais il arrête son activité professionnelle. Donc il ferme sa boutique à Givry. Et donc on a trouvé une solution de remplacement au Cellier Saint-Vincent. On y reviendra. L'atelier d'écriture animé par Jean-Paul Dayou, la dictée animée par Liliane Doutet et Wikipédia animé par moi-même. Juste un petit... Bon, on est 4 ou 5 à l'atelier Wikipédia. Je rappelle le principe de Wikipédia, c'est de faire en commun des modifications ou des créations de fiches sur cette encyclopédie en ligne. J'y reviendrai dans le détail. Et on avait un petit peu stoppé cette activité l'année dernière parce qu'on était très pris par le démarrage d'une nouvelle activité qui est l'histoire industrielle de Châlons, que l'on voit ici. Sur cette ligne-là, voilà. Alors, les ateliers historiquement les plus anciens, c'est les ateliers lecture et littérature, donc lecture Jeanne-Marie Michel, littérature, Françoise Piau, elle vient, Françoise ? Ah, bon, donc Liliane Doutet fera, parlera pour elle. Donc, éthique et société, Monique Samet est ici. Histoire industrielle, je vous en parlerai. La marche, Michel Clerc est là. Et voyage culturel, donc on a un groupe où l'an dernier, on a intégré un nouveau membre, c'est Marie-Christine Lecestre, parce qu'on avait découvert qu'elle faisait tous les voyages de l'UTB. Ça nous a paru pertinent de l'intégrer au groupe qui définit la liste des voyages. Et elle est tout à fait motivée et ça fonctionne très bien. Alors les ateliers, eh bien, je rappelle l'intérêt des ateliers, en dehors du sujet qu'ils traitent, c'est un espace de convivialité. Et c'est sûr que les conférences, c'est notre activité de base, mais elles ne favorisent pas l'échange entre les personnes, sauf entre celles qui se connaissent déjà, donc ça, le mélange n'est pas très facile à matérialiser. Évidemment, dans des petits groupes de 5 à 10 personnes, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Et puis, l'expérience montre que les liens amicaux se créent. Et en général, à la fin de la saison, eh bien, il y a une petite activité, un pot, un dîner, un pique-nique, une sortie qui matérialise la solidité du groupe. Alors, je vais commencer par une absente. Donc le cellier Saint-Vincent, 5 rue Saint-Vincent, c'est Madame Nadine Marcillet, qui est la responsable de la boutique, là, qui a accepté donc de reprendre cette activité. Et on y croit pas mal parce qu'on nous avait fait savoir les années passées que le fait de faire une dégustation de vin de 10 à 12 à Givry n'était pas toujours très favorable, ni par l'horaire, ni par la distance, pour avoir un nombre de participants significatif, sauf ceux qui habitent à Givry, éventuellement. Donc, on tente l'aventure, là, maintenant, en ville, et donc, on verra si... et puis, l'horaire est plus, je dirais, favorable à une activité de dégustation. Et donc... pour démarrer, eh bien, elle a proposé un programme qui est très diversifié, comme le programme de conférence de l'UTB. Vous voyez en bas du tableau la liste des découvertes et des thèmes qui seront abordés cette première année avec le cellier Saint-Vincent. Alors, je laisse la parole à Catherine. Tu prends le micro filaire. Voilà. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet atelier 3L, alors que d'habitude, il y en a plutôt 2 pour les choses qui volent encore, qu'il y a des insectes qui en ont plus que 3. En tout cas, nous, c'est... L comme langue, L comme littérature, L comme latin. Alors, c'est un atelier... alors, je vois quelqu'un qui fait... C'est un atelier où on pratique des activités selon un dosage qui n'est jamais le même entre la langue française, la langue latine et la littérature française et un peu latine. Pour les personnes qui fréquentent cet atelier, j'espère qu'elles seront d'accord avec moi, c'est un atelier dans lequel nous travaillons avec beaucoup de sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Ça, j'y tiens beaucoup. Je ne suis pas la maîtresse avec mes élèves. J'apporte ce que je peux apporter à des personnes dont certaines d'entre elles, d'ailleurs, n'avaient jamais vu un seul mot de latin de leur existence. Et on s'applique à faire des choses qui fassent que tout le monde trouve sa place et la contribution de chacun est évidemment importante. Donc, il n'y a pas de prétention dans ce travail-là, il y a juste l'envie de faire des choses ensemble, de les découvrir ensemble, et pour ma part, le plaisir que je retrouve avec mes élèves, entre guillemets, et que j'ai eu avec mes élèves quand j'enseignais. Voilà, donc tous ceux qui aiment la langue, les problématiques linguistiques, tous ceux qui ont envie de connaître un petit peu de latin, mais pas... voilà, c'est plutôt de la curiosité, je ne sais pas comment dire, en tous les cas. Oui, c'est ça, oui, madame.
Oui, il y a une question là. Vous donnez le micro pour que tout le monde l'entende.
Non, mais on va entendre la dame. Voilà, oui. Oui. Oui.
Vous m'entendez, oui.
Très bien.
J'étais intéressée par le latin et on m'a dit qu'il fallait connaître le latin.
Pas du tout. Non, absolument pas. Dans le groupe que nous sommes, il y a au moins deux personnes qui n'avaient jamais de leur vie abordé le latin. C'est justement ça qui est... moi, c'est ça qui m'intéresse. D'abord, ça me permet de faire la maligne. C'est quand même pas si souvent dans la vie. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai arrêté d'enseigner depuis longtemps et puis je n'ai enseigné qu'à des classes de troisième. Donc, faut pas m'apporter un texte de Tacite en disant « Madame, qu'est-ce que ça veut dire hein ?» Parce que ça, si on vient pour se faire piéger, c'est pas la peine, quoi. On n'est pas là pour ça. On est là pour découvrir des choses ensemble et ce que je sais, moi, il y a des choses que je sais. La grammaire, la grammaire, je peux pas certifier, mais dire que j'ai de bonnes connaissances en grammaire française et en grammaire latine. Mais avec ça, eh ben, on découvre des choses, on travaille des textes, quelquefois difficiles, mais on y arrive et on croise avec des textes français, on croise des thèmes, on fait des découvertes ensemble. Mais il n'y a pas du tout besoin, non. Et c'est un travail très interactif, c'est pas du tout un cours magistral, hein, pas du tout, hein. Et nous, on n'a pas fait de pique-nique à la fin de l'année, mais on a fait la dernière séance au bar Carnot parce que j'avais pas la bonne clé. Donc, traduire Catulle au bar Carnot, ça a quand même de la gueule. Voilà. Ben voilà, j'espère qu'on sera toujours aussi nombreuses, et qu'on va continuer à se divertir au sens pascalien du terme, bien entendu. Alors, première séance le 14 octobre. Lundi 14 octobre. Pardon, c'est une fois par mois. Et c'est comme chez McDonald's, vous venez comme vous êtes. Voilà. Merci à vous.
Bien, merci beaucoup. Donc, je refais une annonce aussi générale que j'ai...
Pardon, j'ai oublié, excuse-moi Yves, je vais faire un peu de promo. J'ai fait l'an dernier une conférence sur René Guy Cadou à la suite d'un travail... extrêmement passionné que j'ai conduit sur ce poète, et l'UTB m'a fait l'immense joie de publier le texte de cette conférence. Donc elle est en vente, non pas dans toutes les bonnes librairies, parce que ça il faudra attendre encore un petit peu, mais je crois qu'il en reste quelques exemplaires. Et surtout, la Mondragore m'a proposé une soirée de causerie autour de René Guy Cadou le 14 mars, donc voilà, et vraiment là pour le coup je fais pas. Si je vous le dis parce que c'est vraiment un poète pour lequel j'ai une certaine vénération et j'ai beaucoup de plaisir à le promouvoir auprès des personnes qui ne le connaissent pas. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Oui, donc soyez actifs sur la procédure d'inscription formelle, c'est-à-dire de remplir la petite feuille qui est soit dans le bulletin, soit sur le site, pour dire « je m'inscris à tel ou tel atelier ». Oui ? On en a quelques-unes, là. Oui, oui, je vous écoute, madame. Oui ? Eh bien, le plus simple, c'est qu'on va vous donner un formulaire, et puis vous allez le remplir et nous le rendre. C'est aussi simple que ça, voilà. On en a porté quelques-uns, voilà. Alors, on passe à l'histoire de l'art. Comme d'habitude, notre ami Mathieu Pinette, qui est extrêmement pris au château, n'a pas pu se libérer. Et voici, donc, je rappelle qu'il nous propose 3 séquences de 5 séances qui se déroulent, disons, de novembre à mars, hein, avec une fréquence de 1 fois par semaine. Donc, c'est en soirée à Janzé, hein. Et donc les conditions matérielles sont excellentes, projection des images et puis l'acoustique de la salle est tout à fait correcte. Par contre, effectivement, comme ça n'est pas en centre-ville, bon ben il y a quelques personnes qui ne peuvent pas ou n'aiment pas aller la nuit à Janzé. Bon, c'est dommage, mais je crois qu'il les conditions dans lesquelles ça se passe sont les meilleures possibles. Donc la peinture au XVIIIe siècle, la peinture française, hein, au XVIIIe siècle, premier cycle, deuxième cycle, la Renaissance en Europe et la peinture animalière. Je rappelle que quelques-uns d'entre nous vont faire un voyage à la fin de cette semaine et on va avoir la chance de visiter l'atelier de Rosa Bonheur, Rosa Bonheur, qui était qui a peint les bœufs, on va dire ça comme ça, mais elle a peint beaucoup d'autres choses. Et c'est elle qui, sous le Second Empire, a été promue comme une artiste à part entière et reconnue par les pouvoirs publics, alors que c'était pas tellement le cas dans les périodes précédentes. Voilà. Donc, de la même façon, si vous souhaitez participer à ces ateliers, merci de le faire au secrétariat et surtout de le faire un petit peu à l'avance, de telle manière à ce que l'on sache à peu près le nombre de personnes qui vont participer à ces activités. Alors, l'atelier d'écriture, donc Jean-Paul, merci de dire quelques mots.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Et l'atelier d'écriture existe depuis une douzaine d'années, je crois déjà maintenant. Bon, il a connu plusieurs phases, des phases d'animation très, très actives, à une époque où nous étions presque une quinzaine dans cet atelier d'écriture, et où nous avons fait des travaux collectifs qui ont abouti à 2 publications. Alors, j'ai amené les petits bouquins ici. La première s'appelait Miroir, c'est-à-dire que chacun des participants a écrit un petit texte, enfin une nouvelle somme toute, sur le thème Le Miroir, et ils ont été regroupés dans cette publication qui a été faite par l'UTB. Et puis, je crois que c'est l'année suivante, une autre publication, alors, qui est dans un esprit un petit peu différent. Elle s'appelle « Un immeuble si tranquille ». Et là, chaque participant, c'est une écriture en commun. Je crois que nous étions 8 à participer cette année-là. Et c'est l'histoire d'un immeuble parisien qui est menacé d'être démoli, et tous les habitants de cet immeuble ont leur propre histoire, se rencontrent, etc., racontent leurs réactions, comment ils réagissent, comment ils voient l'avenir, etc. Et donc, chaque participant à l'atelier représentait un des habitants de l'immeuble. Et alors, c'est un exercice qui n'est pas facile, et on était pas complètement optimiste au départ sur la possibilité de le faire, et en définitive ça n'a pas mal marché. Bon, il y a eu d'autres phases dans l'atelier d'écriture, bon, qui sont revenues à un mode de fabrication un petit peu plus habituel de ce genre d'atelier. Bon, et puis depuis combien, 4 ans, hein, monsieur Fournier avait demandé de prendre le relais parce que les précédents animateurs n'étaient plus là. Et alors Moi, je suis pas un ancien professeur de lettres, je suis juriste. Mais bon, il se trouve que au cours de mon existence, j'ai quand même pas mal lu et puis un petit peu écrit aussi. Et
il a même écrit un roman passionnant, un roman historique qui s'appelle Le fantôme de Robespierre.
Le fantôme de Robespierre. Voilà.
Voilà donc il est très bien. Je le dis puisqu'il est là, mais je crois tout le monde, tous ceux qui l'ont lu peuvent confirmer. Alors, je vois qu'il y a une erreur, c'est sur la planche, là, sur la date de la première séance, c'est juste le 15, avant les vacances de Toussaint, c'est le
15 octobre.
Le 15 octobre.
Mardi 15 octobre. Bon, donc maintenant, on fonctionne de la manière suivante. Bon, chacun peut amener ses idées, c'est pas moi qui amène toutes les idées. Et à chaque séance, à la fois, on rédige de manière spontanée un petit texte pendant la séance sur un thème donc qui est convenu entre nous, et puis aussi on se donne lecture d'un texte préparé à l'avance dont on a donné le thème la fois précédente, et donc qu'on se soumet les uns aux autres en suscitant des remarques qui sont en général quand même bienveillantes. Je vois une participante à notre atelier qui peut confirmer, et puis à la fois bienveillante et puis à la fois constructive. Bon, c'est pas un atelier pour apprendre à écrire des lettres à la préfecture ou pour c'est pas non plus un atelier pour vous donner des secrets pour être édité par un grand éditeur parisien en sachant d'avance que votre manuscrit va être accepté si vous passez chez nous. C'est beaucoup plus modeste. Je crois que c'est simplement pour permettre à chacun de s'exprimer, d'avoir un mode d'expression. Et je crois que parmi nous, un certain nombre d'entre nous, dont moi-même, nous sommes assez à l'aise dans l'expression par écrit, peut-être plus que dans d'autres modes d'expression, et c'est ce qui nous réunit, et c'est ce qui fait que ça fait une très bonne ambiance entre nous. Alors je lance un appel pour qu'on soit un petit peu plus nombreux, parce que l'année dernière, on avait dû débuter à 8 ou 9, quelque chose comme ça, et puis bon, on a eu quand même des personnes qui sont parties en cours d'année, donc pour bien fonctionner un atelier comme ça, il faudrait qu'on soit quand même de manière stable à peu près 6, 7, 8. En dessous, ça a moins d'intérêt. Donc parlez-en autour de vous, même si vous-même vous n'êtes pas motivé, parlez-en à vos amis que ça pourrait intéresser, parce que pour la viabilité de cet atelier, il faut être un petit peu nombreux au départ. Si on pouvait être une dizaine, ça serait parfait. Voilà, merci.
Merci. Juste un petit complément. Je rappelle que tout à fait au départ, un des thèmes qui était important dans l'atelier d'écriture, c'était d'écrire ses autobiographies. Puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes, on a tous des âges où on se pose ce type de questions, même si on ne pense pas que sa vie mérite un exposé tout à fait charpenté, mais on a tous été confrontés à ce type d'interrogation qui consiste à dire « si j'avais su, j'aurais demandé ceci à mon père et cela à ma mère, mais ils ne sont plus là ni l'un ni l'autre ». Et donc il y a un problème de conserver la mémoire familiale, non seulement pour vous-même, mais également pour vos enfants. Et donc il y a quelques personnes qui sont allées jusqu'au bout de l'exercice et qui ont écrit leur autobiographie, je ne dis pas pour eux, mais surtout pour laisser un témoignage dans leur propre famille, si vous voulez. Voilà. C'est un des thèmes qui peut aussi relancer un petit peu la machine. Voilà. Alors l'atelier Wikipédia, j'en ai dit deux mots tout à l'heure. On a eu une activité assez soutenue pendant les trois ou quatre dernières années jusqu'à l'année dernière où on a fait une année blanche. Et pourquoi cet atelier ? Ben, tout simplement, on s'est rendu compte que pour écrire des articles à connotation encyclopédique, d'abord, c'est pas si facile que ça. C'est aussi un exercice du même type que l'atelier d'écriture, parce qu'il faut être le plus synthétique possible. Et surtout, sourcer toutes ces informations. C'est la base de Wikipédia. Non seulement on peut écrire des choses, mais il faut que ces choses soient assises sur une documentation qu'on appelle une documentation secondaire, c'est-à-dire des gens qui ont déjà écrit sur le même sujet dans des monographies, dans des revues, dans des articles, et y faire référence quand on fait la rédaction, qui est une rédaction de synthèse. Et je me suis rendu compte, il y a une dizaine d'années, je faisais ça tout seul le soir à la veillée, et puis quand on est seul, eh bien, on passe un temps fou parce qu'on n'est pas... On n'est pas habitué à l'usage de l'outil, et le fait de le mettre en commun a fait avancer les choses. Et donc on est très fiers de dire que parmi tout ce qu'on a fait, on a réussi, après 2 ans de travail, à faire une grande fiche Wikipédia qui s'appelle « Histoire industrielle d'Eschneider » et qui n'existait pas dans Wikipédia. Alors elle est longue comme un jour sans fin. C'était très long à faire parce que Wikipédia, c'est... faut essayer d'éviter de faire des choses qui soient trop grandes, sinon on ne les lit plus. Et donc, finalement, elle a été finalement acceptée par le système. Et donc, on va reprendre ça cette année, puisque je vais vous faire une conférence sur la vie des Schneider le 2 décembre. Et à l'occasion de la préparation de cette conférence, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de trous dans la raquette, dans ce qu'on avait fait, et donc il y a besoin de reprendre, de remettre le métier sur l'ouvrage, puisque toute la philosophie de Wikipédia, c'est ça n'est jamais fini, par définition. Et c'est mis à jour, et c'est complété, et c'est amplifié au cours du temps. Voilà. Alors, tout à fait dans le même esprit, atelier d'histoire industrielle de Châlons, eh bien, j'ai lancé ça donc il y a un an. Et pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pris conscience, moi j'ai fait ma carrière dans l'industrie chalonnaise, mais beaucoup de gens à l'UTB sont dans ce cas, et depuis, on va dire, les années 80-90 et la période actuelle, eh bien, ça fait un an qu'on cherche. Personne n'a écrit quoi que ce soit sur ce sujet, d'une façon rassemblée et synthétique. Donc, on s'est fixé comme ambition de tenter de le faire. Ça n'est pas gagné d'avance, mais on progresse bien. Et donc, on espère pouvoir proposer quelque chose d'ici la fin de l'année sous forme de revues périodiques qui raconteront un petit peu cette histoire. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc si vous avez été dans l'industrie, que le sujet vous intéresse et que vous voulez participer, eh bien vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, il y a 20 personnes au sein de l'UTB qui font partie de cet atelier et on a réussi à trouver déjà 80 témoins à l'extérieur de l'UTB, 80, qui représentent plus d'une quinzaine d'entreprises qui ont accepté ponctuellement d'apporter leur témoignage. Donc, il y a bien un besoin latent d'écrire tout ça. Alors, les ateliers de langue. Alors, la problématique des ateliers de langue, c'est qu'il y a un intervenant qui est rémunéré. Donc, étant rémunéré, eh bien, il faut payer une cotisation supplémentaire pour, disons, nous permettre de le rémunérer. Donc, en général, ça couvre toute la saison active de l'UTB et on ajuste, si vous voulez, les programmes en fonction des demandes dans telle ou telle langue. Alors, aujourd'hui, on a pour l'essentiel de l'anglais et du chinois. Toutes les autres langues qu'on avait, on les a un petit peu abandonnées parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'amateurs. On va déjà parler des ateliers d'anglais. Alors, Michael, qui est là, qui fait l'anglais intermédiaire, il va parler pour Benita, qui n'est pas disponible aujourd'hui, qui fait l'atelier faux débutant. Donc, et comme Benita, c'est une personne sérieuse, elle a laissé un petit message à Michael qu'il va le restituer. Voilà, en français.
Donc, d'abord, hein. vous devez m'imaginer comme...
Parlez, rapprochez le micro bien de la bouche.
Vous devez m'imaginer comme Madame Basson, et puis je serai moi-même. Mais, elle m'a envoyé un texte à réciter. Et donc, je dois mettre mes lunettes à lecture. Voilà. Et tout est en anglais ici, donc je dois traduire.
Un exercice de traduction simultanée. Voilà.
Tout est en anglais, ce qu'elle a envoyé, donc je vais traduire. Donc, ce cours, les faux débutants, est pour les gens qui ont fait très peu d'anglais ou ont étudié l'anglais il y a très longtemps et qui voudraient réviser les choses basiques. Et pour cela, pour la grammaire basique, vocabulaire et prononciation, on travaille avec des thèmes, par exemple, les voyages, les repas, les loisirs. On utilise les dialogues et les textes courts basés sur ces thèmes. Par exemple, si le thème est les voyages, on pourrait faire un dialogue concernant une réservation dans un hôtel. Les étudiants écoutent, ils lisent, ils jouent de petites scènes et des exercices généraux visés à la communication basique. Et donc, ça c'est tout qu'elle a envoyé. Donc, c'est les mardis à 10h, 30 rue Saint-Georges.
10h à 11h.
On commence le 5 novembre.
Voilà. Très bien. Alors maintenant, on passe toujours en français à l'anglais intermédiaire. C'est Michael, c'est lui
oui.
qui parle.
Donc,
voilà.
Maintenant, je suis moi. Donc, mon cours a le titre intermédiaire. Et ce thème comprend un grand éventail de niveaux. Donc, si vous avez une connaissance basique de l'anglais, de grammaire, de vocabulaire, vous pouvez essayer mes cours parce que je crois que vous ne les trouverez pas trop difficiles. Par contre, si vous avez un niveau assez avancé, particulièrement en grammaire, il y aura quelque chose pour vous aussi. Vous ne trouverez pas les cours trop faciles. Et donc, je crois que le plus simple est de vous donner une idée d'un cours typique. Les cours sont divisés en trois parties. D'abord, on regarde une vidéo tirée de la télévision britannique. Et on commence en regardant peut-être 10 minutes de cette vidéo sans interruption. Et puis, on parle du sujet, des thèmes, etc. Pour voir si tout le monde a compris le sujet. Et puis, on rembobine au début pour couper ces 10 minutes en petits morceaux pour étudier en plus de détails les expressions, le vocabulaire, les idées, etc. Et on fait la même chose peut-être 2 ou 3 fois. La deuxième partie consiste en peut-être la prononciation ou la grammaire ou le vocabulaire. Et il y a normalement un exercice à faire. Et chacun à son tour pour traduire, pour discuter de la phrase que j'aurais proposée. La troisième partie, c'est un texte, normalement tiré d'un journal, d'un magazine ou peut-être d'une œuvre de littérature, et on le lit pour la compréhension, pour la prononciation des mots, et puis on discute des thèmes, des idées, etc. Et donc, ça c'est les trois parties. Normalement, les choses vont bien. Ok, des questions?
Eh bien, merci, Michael. Pardon? Oui, vous voulez dire autre chose? Non?
Non. C'est bien sûr. C'est...
Voilà, alors on démarre quand?
Les?
Et on démarre quelle date?
Le 5 novembre. Le 5 novembre.
Le 5 novembre, d'accord.
Le 6 novembre.
Le 6 novembre.
C'est
marqué.
Les mercredis à 10h, commençant le 6 novembre. OK. Merci beaucoup.
Voilà. Oui, bonjour. Eh bien, quelle coordination, notre ami Lianglu, la chinoise de service, qui est notre grande amie, on la remercie beaucoup de son implication à l'atelier de chinois à l'UTB, qui marche très bien. Et donc, elle a préparé une petite présentation que je vais installer. Donc, voilà, si tout va bien. Alors, bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Voilà. Alors, Zhongguo, c'est la Chine. Voilà. Voilà.
Bonjour, pour les participants chinois déjà. Merci d'être venu. Alors, je m'appelle Li Honglu. Depuis 2017, je fais mon atelier chinois avec tous les participants. Chaque année, il y a des nouveaux participants en fait, qui intégrent facilement avec les anciennes et les anciens. Et en fait, ce qui est bien dans notre atelier chinois, c'est que pour les initiés, en fait, ils aident beaucoup en fait, les débutants. Et l'objectif, c'est qu'en fait, on avance doucement et à l'autre rythme. Et depuis l'année dernière, en fait, j'avais fait un peu. En fait, on a recoupé on va dire, la classe en deux groupes. Un groupe initié et un autre groupe débutant. Et en fait, finalement, en fait, on a, en gros, on a aussi 30 minutes pour que les deux groupes puissent être ensemble pour faire un peu de, surtout, on va dire, conversation, entre guillemets, en fait, selon des situations données. Et voilà, enfin, je vais vous présenter un peu comme ça, vous voyez un peu concrètement qu'est-ce que ça peut vous faire réfléchir, voilà, ça peut vous donner un peu une idée. Voilà, un peu de connaissances générales, s'il vous plaît, ouais. Voilà, et le drapeau chinois, comme voilà, pour vous juste présenter un peu. Et voilà, la carte de la Chine. C'est en fait la langue chinoise, enfin, les langues chinoises, en fait, il y en a, on va dire, avec dialecte, langue régionale, à peu près 200 quelques. Nous, on va faire juste le mandarin. Donc, ne vous faites pas peur. Et voilà, en fait, le mandarin, c'est la langue officielle de Chine. Et dans notre atelier, du coup, on va apprendre surtout un peu oral. Et en fait, après, on va apprendre aussi un peu idéogramme, c'est-à-dire l'écriture chinoise. Et surtout, en fait, vous allez faire entraînement chez vous. Parce que voilà, vous allez voir que ça peut vous donner un moment vraiment agréable où vous pensez à rien que faire un peu l'écriture. Et voilà, ça c'est voilà, que vous voyez un peu ces Chinois. Sans doute, vous avez déjà vu quelque part l'écriture chinoise. C'est un peu, voilà, parfois on se dit un peu comme une image, voilà. Je vous présente aussi quelques images de monuments chinois rapidement. Voilà, ça c'est à Xi'an, c'est les soldats enterrés. Voilà, s'il vous plaît. Et ça c'est à la, en fait, la cité interdite. Voilà, sûrement, je pense que, enfin, beaucoup, peut-être vous étiez déjà allés pour visiter. Voilà, s'il vous plaît. Et puis voilà, la fameuse grande muraille. Et puis voilà, c'est juste en fait dans notre l'atelier, non seulement on va apprendre la langue, et puis aussi on va faire un peu la connaissance de en fait culture chinoise. Par exemple, voilà, ça se présente pas pareil que vous, chez vous en France. Voilà, on mange plutôt ensemble, on partage des plats, et surtout en fait on mange avec des baguettes chinoises. Vous pouvez avoir, s'il vous plaît. Voilà, ça peut être
le plateau.
Avec, voilà des. Ça, table avec les ça tourne, et voilà la fameuse de canard naqué, voilà par exemple. Et voilà, on va en fait apprendre à aussi utiliser un peu la baguette chinoise. C'est pas évident, mais en fait petit à petit après on sait, voilà, les manipuler. Voilà, je vais vous présenter un peu l'écriture chinoise, c'est-à-dire qu'on peut dire c'est sinogramme, idéogramme, et dans l'autre atelier, on va faire un peu aussi la calligraphie. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a 1h30 en fait par semaine, et on a, enfin, on pensait faire beaucoup de choses, mais en fait, on arrive à faire beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait chaque année. Voilà. Année par année, on évolue. Donc, pour les écritures, par exemple, rapidement, je vous présente ces différents alphabets. En fait, c'est avec, surtout composé avec des traits. Et après, en fait, pour mémoriser, par exemple, il y a la direction de traits. Et puis, en fait, on peut les composer des mots avec des clés. Et puis, en fait, tout ça, en fait, voilà, vous allez voir après, c'est amusant. Quand vous connaissez des clés, vous pouvez, en fait, retrouver facilement des mots ou bien de deviner, voilà, s'il vous plaît. Oui. Et c'est là, en fait, ce sont des traits, mais il ne faut pas avoir peur parce que les plus utilisés, il n'y a que 9 traits de base, en fait. Et après, c'est des traits rarement utilisés, voilà, s'il vous plaît. Et là, par exemple, ce sont des traits, on va dire, de base, il n'y a que 9, voilà. Avec ça, en fait, on a déjà beaucoup d'écritures, on va dire, qu'on contient ces traits-là, s'il vous plaît. Et par exemple, dans ce mot-là, on voit que, voilà, ça représente déjà pas mal de traits de base. Voilà. Et par exemple, si on prend un mot comme « je » ou bien « moi », c'est, en fait, sa prononciation, c'est « wo ». Et en fait, chaque fois, en fait, on décompose les traits et enfin, on les fait aussi par l'ordre donné. Et c'est comme ça qu'on mémorise. Mais en fait, si vous mémorisez pas, en fait, c'est pas catastrophe. Après, en fait, on mémorise d'une autre façon aussi. Alors là, par exemple, on a présenté un peu l'ordre de traits. Par exemple, on écrit toujours de gauche à droite, de haut en bas, etc. Enfin, on va dire règle d'or, c'est de haut en bas et de gauche à droite. Voilà. Enfin, on va dire simplifié, je vous présente juste voilà, quelque chose comme ça. Et après, vous voyez, ce sont des clés. Par exemple, pour clé de l'homme, voilà, on peut les trouver dans ce mot-là. Par exemple, il. Et en fait, c'est, qui correspond il comme un monsieur. Et ni, et par exemple, ça peut présenter toi, voilà. Et après, par exemple, pour la clé des animaux, en fait, animal, par exemple, si on voit cette clé-là, la deuxième image, on sait qu'à peu près, c'est déjà, en fait, un animal. Mais comme en français, il y a beaucoup d'exceptions, voilà, etc. Par exemple, si on regarde la quatrième, la clé de femme, en fait, si on voit cette clé, voilà, pour vous, maintenant, ça ne va rien dire, mais si on voit cette image-là, déjà, en fait, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose lié avec une femme ou quelque chose de féminin, etc. S'il vous plaît. Je ne vais pas trop, voilà, je vais juste vous présenter rapidement. Voilà, après, c'est pour les structures. Par exemple, on a des mots de gauche-droite, si vous regardez deuxième ligne, et de mots qui peuvent avoir trois parties, gauche, milieu et droite. Voilà. Il y a des mots qui peuvent avoir la structure de haut et bas. Voilà. Et etc. Après, voilà, c'est juste tout ça. Ça paraît beaucoup de choses, mais c'est pour vous aider à mémoriser, en fait. Voilà, s'il vous plaît. Et au début, pour les débutants, en fait, je vais vous présenter surtout comment on fait, en fait, l'écriture chinoise avec une feuille, en fait, que les petits Chinois utilisent aussi en Chine. Et après, la calligraphie, voilà. Calligraphie, en fait, je vais vous, comment dire, je vais vous surtout présenter une séance où on fait, par exemple, 30 minutes et avec les initiés, on fera ensemble. Et je vais vous expliquer, voilà, tout ça. Et après, on participe, voilà, un peu. Voilà. Après, en fait, cette année, donc, par exemple, pardon, je vous présente aussi ce qu'on fait à l'oral. En oral, par exemple, pour les débutants, on va apprendre à dire, par exemple, se présenter, voilà, et demander son chemin, commander quelque chose dans un restaurant. En fait, plutôt, c'est des choses, on va dire, pratiques. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Et un exemple, par exemple, se présenter. Voilà, ça va être deux personnes, en fait, qui se présentent, demandent, voilà, le nom, le prénom, voilà, nationalité, par exemple, voilà. En fait, ce qui est bien dans l'atelier chinois, c'est que les initiés, chaque fois j'ai essayé de mélanger un initié, un débutant, en fait, ça aide beaucoup, surtout les débutants, voilà. S'il vous plaît. Et depuis l'année dernière, j'ai essayé de faire, en fait, chaque fois, quand on a un petit texte où on a, par exemple, une situation donnée, il y a des phrases dedans, j'ai essayé de retirer des structures, ou bien on peut appeler syntaxe, pour qu'on puisse savoir chaque fois comment on peut composer une phrase, voilà. C'est, par exemple, c'est un peu comme en français, hein, c'est sujet d'abord, verbe. Après, c'est l'objet, on va dire, plus simple. C'est déjà pas mal, c'est un peu, on va dire, comme en français. C'est pas dans, il y a des langues qui commencent d'abord les verbes, etc. Donc, l'année dernière, on l'avait fait, en fait, surtout dans la partie culturelle, on l'a vraiment fait une parcours de, on va dire, les routes de la soie pour présenter, surtout, qui se présente un peu dans la partie de Chine, on avait fait la ville de Xi'an, on a présenté tout autour les monuments, voilà, qu'est-ce que, en fait, est connu, en fait, qu'est-ce que, voilà, ils mangent, et qu'est-ce que là-bas, il y a quelles spécialités, etc. On avait fait Xi'an, on avait fait Nanzhou et Xinjiang, voilà, c'est trois grosses régions. Voilà, c'est en fait, on avait parti de Xi'an, voilà. Et après, on avait fait Nanzhou et après, on fait Urumqi. En fait, Urumqi, c'est les Urumqi, en fait, c'est le capital de Xinjiang, oui. Voilà, et après, en fait, dans l'autre atelier, comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant les 30 minutes de temps commun, en fait, on a pu, en fait, d'échanger et puis faire en fait des conversations ou bien si les grands, les anciens, ils peuvent aider les en fait les débutants. Et aussi on fait chaque année des moments d'échange entre les participants, surtout pour par exemple votre fête traditionnelle Noël et aussi pour notre fête en fait Nouvel An chinois. Je vous présente juste quelques photos pour vous montrer, s'il vous plaît. Oui. Là, grâce à Michel, qu'on a vu, on a pu en fait fêter Nouvel An chinois chez elle. Voilà. Voilà, on a tous les participants, voilà. Et on a pu déguster, voilà, comme vous voyez. En fait, j'ai fait quelques plats pour remonter. Enfin, ces plats-là, en fait, on l'avait déjà débordé, en fait, à expliquer un peu dans l'autre atelier, voilà. Et après, en fait, on a pu manger. Vous voyez qu'ils arrivent à manger avec les baguettes. Même ils n'arrivent pas, ils l'ont essayé et tout, voilà. C'était super, voilà. C'est une photo prise par une participante, je la trouve super. Voilà. Et voilà, je vous montre aussi une photo de la classe de l'année dernière. En fait, on a des enfants de 7 ans et puis jusqu'à un monsieur de... C'est Alain, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, vous connaissez, c'est 84 ans. Voilà. Et pour cette année, en fait, on avait expliqué avec... en fait, dans notre atelier, ce qui est bien, c'est tout le monde peut donner une idée et puis pour... dire voilà qu'est-ce qu'on voudrait faire et puis après on va voir si on pourrait les faire ensemble. Par exemple, cette année j'ai pensé quelque chose, en fait une approche actionnelle, c'est-à-dire on va essayer de limiter des situations vraiment réelles, enfin authentiques, pour qu'on puisse utiliser ce qu'on a appris. Et après ce sont les idées des participants. Ils voulaient par exemple qu'on puisse présenter des thèmes comme poésie, film, livre ou un lieu spécial, etc. Et parfois, ça peut être un participant qui peut avoir, par exemple, s'il est allé visiter un lieu en Chine que même moi, des fois, je ne connais pas, comme la Chine est tellement grande. Et voilà, ça sera un moment d'échange et super. Et donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà, vous êtes bienvenue. Et puis, voilà, si vous avez des idées à partager, voilà, ça sera super. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.
Merci.
Si vous avez des questions, pardon. Ça va, pas de questions? Bon, super. Merci.
Alors, je vais donner la parole maintenant à Tonia. Que tout le monde connaît puisqu'on la voit tous les jours à l'entrée des conférences, donc qui anime la conversation anglaise. Voilà.
Eh bien, bonjour à tous. Donc effectivement, depuis quelques années, j'anime cet atelier de conversation anglaise. Je serai beaucoup plus courte que mes précédents collègues, parce que la conversation anglaise s'adresse d'abord et avant tout à des personnes qui sont à l'aise dans la conversation, c'est-à-dire qu'ils peuvent discuter de tous les sujets. Cependant, depuis quelques années, nous avons également des personnes qui se trouvent au niveau intermédiaire, avec Michael notamment, et qui souhaitent, grâce à la conversation, pouvoir discuter un petit peu tous les sujets. Alors nous abordons tous les sujets dans cette conversation. On arrive, on se retrouve, c'est très très convivial, on rigole beaucoup et on peut discuter de tout. On arrive, il y en a un qui dit, bah, tiens, est-ce que tu as vu à la télé telle chose ou est-ce que tu as écouté tel truc? Alors ça peut être sur la politique, sur la littérature, sur le cinéma, sur la musique, ça peut être sur tous les sujets. Et à partir de là, on part dans toutes les directions et on discute un petit peu de tout. Parfois on repart sur des voyages, on revient, enfin c'est très 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 interactif. Et parfois, dans cette conversation, il y a des personnes qui viennent en disant « ben voilà, moi j'aimerais bien discuter de tel sujet très précis ». Je prends le cas de Marie-Lise Michelin, qui voulait absolument parler sur l'émigration et qui nous a fait une présentation toute en anglais là-dessus. Et c'est très intéressant et à partir de là, eh bien, on commence à débattre. C'est aussi l'occasion... lors de ces conversations, de faire des petites agapes entre nous. On dit, tiens, c'est tel événement, telle chose. On amène des petites boissons, de quoi manger, et on continue de discuter, toujours en anglais, bien entendu. On se retrouve tous les mercredis à 17h à Janzay. Actuellement, le groupe oscille entre 13 et 15. Donc c'est très bien comme nombre, ça nous permet effectivement de pouvoir discuter bien sans se perdre et d'éviter des groupes qui se commencent à parler en français alors que le but c'est de parler en anglais. Et la première réunion ou la première conversation sera le mercredi 2 octobre. Donc je commence, je dirais même j'ouvre les ateliers cette année le 2 octobre. Voilà. Donc c'est très convivial, très sympa, vous pouvez venir voir aussi, tester, si vous dire, ben, je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir participer. Vous êtes libre de venir et puis voir si ça vous plaît ou pas. Et cet atelier est gratuit. Voilà, moi, ça permet comme ça, entre guillemets, beaucoup plus de liberté. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Non? Bon, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour les personnes qui vont assister à ce cours et sinon, à bientôt pour d'autres occasions pour les autres.
Bien, merci beaucoup. Donc, voilà. Alors, la dictée.
Alors, la dictée, c'est avec moi. Depuis 2009, on a commencé cette activité qui marche bien, d'ailleurs, donc on continue. Donc, je choisis un extrait de roman du 19e ou du 20e, un extrait que je choisis en général au début du texte pour que ce soit assez général. Et ce texte comprend des difficultés de grammaire, bien entendu, sur lesquelles on revient avant la dictée pour remettre les choses en place et après la dictée quand on corrige. Donc on lit le texte, je vous fais part des difficultés que j'ai sélectionnées, on explique, vous posez des questions, on fait la dictée, on relit, on corrige et puis on s'en va. Et l'après-midi ou le soir, j'envoie le texte corrigé, le texte de dictée corrigé, la règle de grammaire reprise. J'ajoute aussi la biographie de l'auteur et puis des petites choses, la vie d'un mot, par exemple, qui voulait dire ceci, qui voulait dire cela. Voilà. Donc ça s'appelle le tourne-autour chez nous et c'est agréable à faire et à lire, il paraît. On commence le 7 octobre. Des questions? Ça coûte 30 euros.
Merci. Donc, d'une façon générale, pareil, inscrivez-vous formellement, c'est-à-dire vous remplissez les feuilles d'inscription. Mettez-vous à la place de Muriel, notre secrétaire, qui a géré une vingtaine d'ateliers, donc elle veut savoir un petit peu ce qui se passe dans chacun des groupes. Merci beaucoup. Alors, lecture, donc, voilà, Jeanne-Marie Michel, donc, qui anime le groupe lecture.
Bonjour, donc j'ai repris l'animation du groupe l'an dernier. Avant, c'était Christiane Coffin, si vous la connaissez, qui a animé le groupe pendant 30 ans. 39, mais oui, bien sûr, oui, 39 ans. Bon, alors, je ne sais pas, ça m'étonnerait que je tienne aussi longtemps. Bon. Alors c'est le groupe lecture avec un S, c'est-à-dire que ce sont des lectures, non pas à voix haute, mais nos lectures. Ouais. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, en général, on tourne entre 15 et 18 personnes. On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste pour venir au groupe. Il faut aimer lire, il faut aimer les romans, les BD. Et puis, parmi nous, il y a quand même des profs de français, une qui connaît très bien la stylistique, une autre, c'est la linguistique, etc. Il y a aussi des psys, il y a aussi des gens qui viennent du social. Et tout ça, c'est très intéressant parce que chacun arrive avec son background pour voir finalement la vraie vie derrière les romans qu'on est en train de lire. Donc pas de connaissances particulières, simplement aimer lire. Voilà. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on lit? Disons que ça tourne autour de deux choses. Soit quelqu'un du groupe a eu un coup de cœur pour un auteur, donc l'année d'avant, donc il a pu potasser tout l'été, préparer, etc. Et cette personne-là va animer la séance. Alors cette année, il y a donc 5 auteurs qu'on va voir. Akira Mizubayashi, n'est-ce pas, qui sera présenté par Simone qui est là. Alors moi personnellement j'ai lu là, il y a longtemps, Âme brisée, c'est formidable, hein. Je ne connais rien d'autre de cet auteur mais c'est très très bien. Ensuite on verra Andrei Kourkov, donc présenté par Françoise qui est là aussi. Kourkov, c'est un Ukrainien. Moi j'ai jamais rien lu de ce monsieur, mais je sais où est Odessa, où est Kharkiv, où est Kyiv, enfin toutes ces villes dont on entend parler, donc ça évoque beaucoup de choses maintenant, hein. Donc on verra aussi Michel Lèbre, qui sera présenté par Liliane, et puis Ian McEwan, qui est donc un Britannique, que j'ai lu, et Paul, Philippe Claudel, Philippe et pas Paul, hein, Philippe Claudel, qui est donc le président de l'Académie Goncourt actuellement, et donc très prolifique et intéressant. Donc là, c'est, si vous voulez, c'est l'axe découverte par des personnes qui connaissent bien. Et puis on a un autre axe qui pourrait s'appeler activité littéraire. Hein, on va commencer par nos lectures de vacances. Hein, qu'est-ce qu'on a lu, pourquoi, on en a parlé, etc. On voit les prix littéraires, donc les prix littéraires qui sont décernés en décembre. On les passe en revue, si vous voulez, en février, hein, le temps de lire tout ça. Et on a le mois de la poésie, hein, où M. Claude Verset, c'est donc un Chalonnais très versé sur la poésie, qui nous fait la gentillesse, parce que ce n'est pas du tout évident, hein, de présenter donc la poésie. Et voilà. Et on l'invite à déjeuner, c'est la moindre des choses. Donc, où ? Eh bien, évidemment, rue Saint-Georges, quand troisième jeudi du mois. Comment ? Alors, comment ? Bon, c'est gratuit. Et puis, on a créé un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp, on se passe des infos du style les sélections pour le concours, la sélection pour le féminin, etc., ce genre de choses. Et puis, des infos aussi. Ah ben, la Mandragore, il y aura un tel qui va venir signer, voilà, par exemple. Et puis, ben, sur le... Comment dirais-je ? Comment ? Moi, je dirais, toute modestie à part, à la manière de le masque et la plume. Pas à la manière de la grande librairie, mais à la manière du masque et la plume. C'est-à-dire que, un, les auteurs ne sont pas là. Donc, on peut plus facilement dire ce qu'on en pense. Hein. Et puis, évidemment, toujours dans la bienveillance, évidemment, par rapport à la personne qui anime. Et, mais disons que la critique est assez libre, et c'est ça qui est intéressant, parce que personne n'aime tout, et donc les idées peuvent se rencontrer, et voilà, on peut évoluer sur sa façon de voir. Voilà, c'est donc notre atelier de lecture, une fois par mois. Une fois par mois, il y a 8 séances. Et si ça intéresse, j'ai imprimé la liste des auteurs qu'on va voir, enfin des sujets qu'on va voir. J'ai le papier avec moi si ça vous intéresse. Question ?
Non. Bien, merci beaucoup. Donc, une fois de plus, voilà un groupe où la convivialité est essentielle, puisque c'est un échange d'impressions et d'analyses sur des lectures faites par les unes et les autres, puisqu'il y a beaucoup de dames. Il y a des messieurs dans le groupe, là. Oui, il y en a quand même. Oui, voilà. Bon. Mais on ne fait pas de ségrégation. Hein, donc, tous les messieurs qui veulent participer sont, bien sûr, les bienvenus. Groupe littérature. Donc, Liliane va parler pour Françoise Pio. Oui, alors...
Qui est l'animatrice du groupe et absente en péché.
Bien dans le micro.
Dans lecture, on prend un auteur et on déroule son œuvre. En littérature, on prend une œuvre et on parle rapidement de sa biographie et surtout, on décortique un peu l'œuvre qu'on a choisie. Alors, c'est pas savant pour autant. Il faudrait que vous veniez voir ce que c'est et que ça vous oblige ou pas oblige, mais incite à vous inscrire au groupe parce qu'on est un petit peu ronronnante, parce qu'on n'est que des femmes. On doit être 7 ou 8 et ça ronronne un peu. Donc il faudrait du 109. Alors c'est un appel. Donc pour le programme, Françoise justement nous parlera d'Ovid, les métamorphoses d'Ovid, lundi 7 octobre. Ensuite, c'est au mois de novembre, puisque c'est une fois par mois. C'est Luis Sepúlveda, l'ombre de ce que nous avons été. C'est Janine Morincombe qui nous en parlera. Carson McCullers, le cœur est un sacheur solitaire. C'est Monique Garima le 2 décembre. Je parlerai de Ruy Blas et de Victor Hugo le 6 janvier. Et puis les dates après, c'est février, mars, avril, mais il n'y a pas de jour parce qu'il y a des vacances de zones qui sont les zones des petits-enfants, donc on joue avec. Alors on va voir Bocas, le Décameron. on va voir des poésies de Louis Aragon et La ferme des animaux de George Orwell. Donc si le programme vous dit, il est sur le site d'ailleurs, il est même sur le programme papier. Hein, donc je vous incite à venir nous voir et travailler avec nous. C'est convivial également, c'est pas compliqué, c'est très sympathique et c'est très... voilà.
Bien, merci. Donc un petit rappel depuis le début, c'est que toutes ces informations détaillées qui sont dans cette présentation... Les horaires, les programmes donc sont sur le site internet, dans le menu, sur les groupes et ateliers. Alors, économie et géopolitique, donc j'anime ce groupe, et là depuis quelques années, eh bien, on arrive à faire un listing prévisionnel des sujets qui vont être traités dans l'année qui suit. Et donc, pour l'année qui vient, ben, tous les sujets sont déterminés et sont sur le site internet. Et donc, il n'y a plus de place puisque toutes les cases sont prises. Et donc, je fais une première réunion le 30 septembre. Alors là, comme les gens ne sont pas prêts, donc je réutilise une partie d'exposé que j'avais commencé dans les années précédentes sur un livre américain qui s'appelle The Map, la carte, qui est une analyse géopolitique globale du monde et qui est très intéressante et très riche. Ce qui fait que c'est absolument impossible à résumer en une seule séance. Donc, je les ai coupés en petits morceaux et donc je vais en donner un extrait donc à la séance du 20 septembre et on validera les sujets et le planning pour les mois qui suivent. Donc, la séance suivante sera début novembre. Voilà. Et en particulier, on a intégré un nouveau sujet, parce qu'on en parle beaucoup dans la presse en ce moment, c'est le vieillissement de la population dans les pays économiquement développés. C'est-à-dire non seulement l'Europe, les États-Unis, le sud-est asiatique, etc., même la Chine, qui est confrontée à ce type de problème. Donc, il y a beaucoup d'analyses qui sortent, et donc ce sera intéressant d'écouter ça. Donc une personne choisit le sujet, résume le livre ou les livres qu'elle a pu lire ou les articles qu'elle a pu lire sur ce sujet-là, en fait un résumé écrit, l'expose et ensuite il y a une discussion qui s'engage avec les autres participants. C'est le même système que dans le groupe lecture par exemple ou littérature. Alors ça fonctionne assez bien et quelquefois ben, on a d'heureuses surprises parce que la qualité du travail qui a été faite par un des membres du groupe m'incite à le pousser à faire le même exposé en conférence générale. Et donc on a déjà eu deux cas comme ça, donc Pierre Babou l'avait fait il y a 2 ans. Et cette année, on a failli la faire cette année, mais bon, elle n'était pas disponible. Et Jeanne-Marie Michelin va parler de l'émigration, parce qu'on est toujours sur ces sujets d'émigration ou d'immigration, tout dépend de quel point de vue on se place. Donc elle montrera que ce phénomène, il n'est pas récent. Il est vieux comme le monde, mais il prend des dimensions tout à fait significatives dans la période actuelle, comme on en entend parler du matin jusqu'au soir dans les médias. Voilà. Donc, ce sera un des sujets sur ce groupe. Alors, ensuite, le groupe Éthique et Société, Monique, tu prends le micro.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors,
parle bien dans le micro.
Depuis bien des années déjà, notre groupe existe depuis 2008. J'ai oublié de vous parler d'un des éléments du titre de ce groupe, éthique. Et ce qui m'en a donné l'idée, c'est qu'un de nous, cette année, nous a quittés. C'est Michel Bonnemain, qui, toujours dans tous ses exposés, mettait en exergue l'humain et l'éthique. Alors, je ne vais pas détailler l'éthique, ça serait trop long, je vais en donner seulement quelques aspects, comme le respect de la personne humaine, la reconnaissance de chacun, porteur d'une parole et d'un désir singulier, une dynamique d'empathie et de confiance, la valeur de la parole et la confrontation des pensées, l'ensemble dans un esprit d'ouverture, de solidarité et d'humanité, et bien d'autres choses encore. Et Michel avait tout ça. Il y en aura donc un de moins dans notre groupe et nous le regretterons beaucoup. Ce groupe est avant tout un groupe de réflexion, de débat sur notre société, un groupe de connaissances et de recherches culturelles accessibles à tous. Et ça, c'est très important. Tout le monde peut venir dans ce groupe. Le thème général est choisi démocratiquement, mais chacun peut choisir d'exposer sur un autre sujet qui l'enthousiasme ou l'interroge. Pendant des années, on a choisi un groupe en commun, à main levée, parce que tout se passe, tout le monde décide ensemble. Et petit à petit, plusieurs personnes ont désiré nous faire partager le livre de leur choix, de leur passion, et ont exposé ce qui leur plaisait. Alors, il reste les deux options, toujours une idée générale, comme qui avait été décidée au départ, et puis qui peut être revue à chaque rencontre, ou la présentation de chacune ou de chacun du livre qui l'a enthousiasmé et que nous partageons. Alors, comment se manifeste l'éthique dans ce groupe ? Et justement, le respect des autres, qui se manifeste par l'écoute silencieuse déjà de la personne qui expose, régulée par un modérateur à chaque fois différent et qui se propose lui-même. Enfin, un modérateur ou une modératrice, bien sûr. C'est néanmoins vivant, très passionné, l'ambiance est chaleureuse, sympathique, curieuse de découverte. Voilà. La prochaine rencontre sera le lundi 7 octobre dans les locaux de l'UTB rue Saint-Georges de 16h30 à 18h30 et c'est gratuit. Avez-vous des questions ? Alors, le thème, oui voilà, ça c'est le thème général.
C'est l'heure, c'est marqué 17h.
Ah non, ce n'est plus 17h, ça n'a pas été rectifié. Déjà cette année, c'est 16h30 à 18h30, tout simplement parce que les portes du local peuvent se fermer à partir de 18h30. Alors, on ne prend pas le risque d'être enfermé dans le local. Voilà, c'est tout. Donc, il faut rectifier. C'est bel et bien 16h30.
Bien, merci. On passe. Alors, cette année, on voudrait tenter deux nouvelles aventures en termes d'ateliers, en prenant comme modèle les ateliers de lecture ou d'éthique et société comme mode de fonctionnement, si vous voulez. Et donc, l'idée, ce serait un atelier d'histoire et un autre atelier de psychologie. Donc, le mode de fonctionnement est tout à fait le même. On prend un spécialiste ou une spécialiste de la discipline, le choix en commun de livres à résumer et analyser, c'est-à-dire que les participants disent ben, « moi j'ai lu tel bouquin d'histoire antique ou d'histoire contemporaine ou d'histoire médiévale, etc., d'histoire locale, d'histoire européenne ». Donc il y a déjà un premier tri à faire en disant « est-ce qu'on veut balayer l'ensemble de l'activité d'histoire ?» Et si le groupe souhaite se spécialiser sur une thématique, eh bien il le décidera lui-même. Une fois ben, après la personne qui a sélectionné un livre, eh bien, en fait un résumé écrit, l'expose aux autres, et puis une discussion s'engage. Alors, comme cet atelier n'a pas été annoncé ni dans la plaquette, ni dans aucun support de l'UTB jusqu'à présent. C'est la première fois que j'en parle. Donc on fera des mailings à l'ensemble des adhérents de l'UTB en disant, ben voilà, il y a ces deux projets. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Ce sont des ateliers gratuits. Bien sûr, le temps que tout ça, ça se mette en route, on ne va pas démarrer avant le début de l'année prochaine. Et s'il n'y a que deux personnes qui s'inscrivent, bon ben, on en restera là et ce sera un coup pour rien. S'il y a plus de 5 ou 6 personnes qui s'inscrivent, on tentera d'avancer dans ce sujet-là. Comme ce sont des thématiques qu'on n'a jamais traitées en termes d'atelier, ben, on va un petit peu dans l'inconnu. On essaye un petit peu de se renouveler pour voir s'il y a un besoin. Parce que l'expérience des années passées montre que, en général, les bonnes idées ont beaucoup de mal à s'exprimer spontanément. C'est-à-dire que si on les propose et les gens se positionnent par rapport à ça, ben, là, ça peut marcher ou pas. Mais si on ne propose rien, ben, rien ne bouge et on ne fait jamais de choses nouvelles. Voilà. Donc, parlez-en autour de vous, atelier d'histoire et atelier de psychologie. Si ça vous intéresse, eh bien, venez vous inscrire, c'est gratuit. Voilà. Selon le même procédé que celui qui a déjà été décrit plusieurs fois. Un rappel pour dire que nous éditons des livres. Donc, juste un petit commentaire autour de ça. On a changé un peu notre organisation. Jusqu'à présent, c'était Michel Beaumont et Jeanne-Marie Michel qui s'occupaient de la partie aval du processus éditorial, c'est-à-dire la gestion du stock et la gestion des ventes. Et j'ai souhaité qu'elle s'occupe de toute la chaîne éditoriale, c'est-à-dire depuis le moment où on crée le texte et la couverture, et jusqu'aux relations avec les imprimeurs, la livraison, les validations des bons à tirer, etc., etc. Donc elles ont accepté, et donc on est en train de mettre en place ces nouveaux processus de fonctionnement. Je rappelle qu'en moyenne, on sort un bouquin par an, parce que les circonstances font que soit ce sont des livres qui viennent du groupe Patrimoine, écrit de Bourgogne, soit ce sont des auteurs extérieurs qui nous ont proposé des ouvrages. C'est le cas du dernier qu'on a sorti sur Abel Niepce. C'est un ami là, qui nous a demandé de l'éditer. On a accepté. Donc, d'ailleurs, on a eu un problème avec ce bouquin parce qu'on y est allé très prudemment. On l'avait lancé qu'à 50 exemplaires. Et au bout de 2 mois, les 50 exemplaires étaient vendus. Et les libraires qui se servent d'habitude chez nous nous ont engueulés en disant « Mais vous êtes nuls, vous avez lancé un bouquin et 2 mois après la parution, il est déjà épuisé. » Donc on n'a pas répondu à ce commentaire un peu désagréable et on a mis en place ce qu'il fallait pour satisfaire la demande. Et effectivement, dans ces bouquins sur l'histoire des sciences, il y a un public particulier qui est intéressé par ce type de bouquin et qui se sert dans des librairies spécialisées qui nous connaissent bien et qui nous commandent des bouquins. Ben voilà. Alors, je rappelle que les deux personnes précédemment citées ont fait un travail gigantesque de classification, d'indexation de tous les bouquins qu'on possède, puisqu'on a eu beaucoup de dons des uns et des autres, et en particulier de Sandrine Fourneret après son décès, qui a fait que le volume de notre bibliothèque, même si on l'a beaucoup écrémé, est tel qu'il faut une gestion du catalogue. Alors, on est toujours très déçus que ce travail n'ait pas un retentissement que l'on souhaiterait, puisque à une certaine époque, on faisait 2 journées par mois d'ouverture de la bibliothèque, c'est-à-dire tous les livres qu'on possède sont prêtables à tous les adhérents, comme dans les bibliothèques municipales, c'est exactement le même système, mais on ne peut pas dire que les adhérents se précipitent, soit ils ont trop de bouquins chez eux, soit ils n'ont pas le temps de les lire. Mais donc je vous rappelle que nous avons tout ça et toute cette... ce catalogue est visible sur le site internet. Alors la marche, tu peux dire 2 mots là, Michel. Donc Michel Clerc qui anime la marche là va vous en dire 2 mots.
Oui, bonjour à toutes et tous. Il y a beaucoup plus de messieurs que non, de dames que de messieurs.
Oui,
comme ça, ça va.
Oui.
Bien. Alors, marcher. Pourquoi marcher après avoir entendu tout ce qu'on vient de nous exposer? C'est pour se détendre, pour essayer d'exister et de maintenir, je dirais, les jambes en bonne et due forme. Nous marchons généralement autour de Châlons, une petite équipe, entre 10 et 25 par expérience. Par contre, nous étions cette année 52 inscrits. Les parcours que nous choisissons sont le plus près possible de Châlons et comportent toujours une distance minimum de 8 km. Et puis au fur et à mesure de l'année, on passe quelquefois jusqu'à 15 ou 18, mais très rarement. Nous faisons 3 sorties par an sur la journée. Les autres sorties sont d'après-midi. Nous partons de Châlons à 13h, 13h30 suivant la saison. Alors, les premières sorties sont faites pour les gens qui veulent essayer de voir s'ils peuvent marcher avec nous. Et je dis que tout le monde peut marcher avec nous, mais pour sécuriser ces gens-là, eh bien, la distance est généralement de 8 km et la dénivelé de 10 à 50 mètres, 100 mètres maximum. Voilà. Alors, l'an passé, nous étions... sur les 52, 33 dames et le reste des messieurs, 19. On se rend compte que les messieurs, soit ils ne venaient pas parce que depuis 2 ans, la présentation était faite par des dames, ou soit parce que les messieurs ont autre chose à faire ailleurs. Voilà. Alors, pour eux, lors des sorties, nous avons un peu d'activité physique, mais aussi, chaque fois, j'essaie de programmé avec mes 2 ou 3 collègues qui réfléchissent avec moi sur la chose. Nous mettons un peu d'histoire locale et éventuellement la visite d'un monument pour nous permettre bien sûr d'évoluer un peu et de connaître la région de plus en plus. Alors certes, certains sont des autochtones, mais les 3/4 des marcheurs sont des gens qui ne sont pas de la région, qui sont en retraite ici, et donc aiment bien découvrir ce qui existe. À la fin de l'année, comme toujours, on fait un ou deux repas ensemble le jour d'une grande sortie, et ça permet bien sûr de faire des plans sur la comète pour l'année suivante. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette année, nous avons fait 17 sorties, oui. Ça représentait 192 km si on mettait les sorties les unes ou les autres. Et compte tenu du nombre de personnes qui ont marché, si je cumule les kilomètres hommes, ça fait 2400 km. Donc si nous avions fait marcher tous les uns derrière les autres, et l'un après l'autre, on aurait fait 2400 km. Voilà, qui peut être un indicateur pour... montrer un peu ce que nous faisons. Je ne sais pas maintenant si quelqu'un est inscrit et a envie de s'inscrire à nouveau. N'ayez pas peur, inscrivez-vous, ça coûte 10 euros seulement. Et oui, les papiers sont à l'entrée. Michel Bourbon vous les remettra et puis vous pouvez me demander à moi si vous voulez quelques autres renseignements complémentaires concernant la difficulté. Nous ne sommes pas des sportifs effrénés. Ceux qui veulent marcher plus vite vont soit au club alpin français, j'en fais partie aussi, donc je sais de quoi je parle, soit dans d'autres clubs à Châlons, qui, eux, marchent par niveau. Nous, nous ne marchons pas par niveau. Les plus forts, je leur demande de rester derrière. Et les autres marchent comme ils peuvent. Mais ce sont les plus forts qui essaient de stimuler les moins forts, je dirais entre guillemets. Voilà, j'envoie dans la scène quelques-uns, quelques-unes. Merci d'être venus. Et puis, je vous dis, la première sortie devra être lundi 15 ou 16, c'est ça ?
14 et 28 octobre.
Voilà. Donc, la marche a lieu le deuxième et le quatrième lundi de chaque mois. Et on se débrouille pour ne pas marcher le jour d'éthique et société, ni le jour d'économie. Et littérature si possible, mais enfin, on fait comme on peut. Avec le nombre d'activités, il est obligatoire que quelquefois certaines se télescopent. Voilà, j'ai tout dit ce que je voulais dire.
Bien, merci Michel. Et on passe, je regarde le. Voilà. Alors, les voyages culturels. Donc, qu'on divise un peu artificiellement en visite locale et voyage, c'est-à-dire de petite durée, la journée ou une demi-journée. Voilà les sujets qu'on vous propose. Hein. Donc, y en a un qui est déjà dans le tuyau, c'est la Villa Pérusson où nous irons le 11 octobre. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Et puis ensuite, donc, on aura à nouveau une visite de l'usinerie dont certains... Alors, on a toujours le problème avec les visites, surtout les visites locales, où les gens disent « Ah ben, j'ai oublié, j'ai pas vu, j'ai pas su, etc. » Et la veille pour le lendemain, ils appellent désespérément le secrétariat en disant « Je veux m'inscrire. » Donc, inscrivez-vous un petit peu à l'avance quand même, puisque à l'usinerie, c'est très demandé, et la dernière fois, ben, les gens qui avaient loupé cette visite, l'usinerie, c'est l'ancien moulin, vous savez, vous voyez où c'est, sur le quai... le quai de Californie, là, en partant sur Californie, c'est le nouveau bâtiment qui a été reloqué, qui est très bien fait dans l'ancien moulin et qui fait que il y a beaucoup d'activités. Donc il y a l'ENSAM, Institut de l'image, il y a les cours du soir de l'ENSAM, du Conservatoire des Arts et Métiers. Et il y a l'UMM qui est également dans ce bâtiment. Voilà. Le Labo Boussicault, pour lequel on avait fait deux visites l'année dernière, il y a encore des personnes qui l'avaient loupé. Donc la responsable nous a dit qu'elle acceptait de le faire. On aura une visite de la maquette qui est dans la salle du conseil municipal par Marc Josserand, qui était l'artisan de cette maquette. Le musée Niepce, on aura une exposition visitée. Visite du CETIC, c'est de l'autre côté de la Saône, les essais sur le nucléaire. Une visite du Creusot et de l'Académie François Bourdon, une visite de Cluny par notre conférencier qui nous a fait un show extraordinaire sur la Notre-Dame de Paris, des labos du lycée Niepce, le monastère royal de Brou, hein, qu'on a fait il y a une dizaine d'années, on voudrait le refaire, et donc une visite d'usine à Châlons. Alors les grands voyages, il y en a un qui est dans le tuyau, c'est Naples. Avec l'association Athéna, comme celui qui avait été fait à Rome l'année dernière, et donc ce sera en avril. Un voyage à Liège et Namur sur une petite semaine, qui se fera en juin, et un voyage à Prague, qui se fera fin août, début septembre de l'année prochaine. Voilà, donc les processus d'inscription, ben, c'est comme les ateliers, mais il faut s'y prendre longtemps à l'avance, parce que là, il y a les contraintes d'hôtellerie et de réservation de bus et d'avion pour les grands voyages qui demandent des anticipations et des versements d'argent un petit peu à l'avance. on peut organiser des conférences, débats et tout ça, ça se fait au fil de l'eau en fonction des opportunités. Et puis, à nouveau, inscrivez-vous, c'est le formulaire passe-partout dont certains exemplaires sont disponibles à l'entrée. Si vous n'avez pas encore obtenu, mais je pense que tous ceux qui sont là ont déjà une plaquette, vous pouvez en prendre une ou deux pour des amis qui souhaiteraient nous rejoindre. Et puis, le résumé de ce formulaire. Les autres groupes, j'en ai parlé là. Et donc, je rappelle que ces activités complémentaires qui ont émergé au cours du temps dans toute l'histoire de l'UTB, sont importantes parce que l'aspect convivial est déterminant. Ce qu'on n'arrive pas à susciter dans le système des conférences, eh bien là, on arrive à le susciter. Et on a constaté qu'un certain nombre d'adhérents à l'UTB n'assistent à aucune conférence, à notre grand étonnement, et sont des fidèles de certains ateliers. Donc cette activité, quand on la nomme complémentaire, elle est doublement complémentaire parce qu'elle correspond à une attente particulière de certains adhérents de l'UTB. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a même tenu le planning. Hein. Donc oui, des questions, oui. Attendez, pour qu'on vous entende bien, on va vous donner le micro sans fil. Oui.
Et je voulais juste avoir un ordre d'idée au niveau du TB. Vous avez combien d'adhérents? Moi, je présente. Vous êtes président, je suppose.
Je suis président.
Je voulais savoir juste une petite présentation
de l'UTB. Voilà. Alors, donc, en quelques mots. Donc, l'UTB, elle a 40 ans. Nous entamons notre 41e année. Voilà. C'est une association de loi de 1901, mais par rapport à d'autres associations culturelles, si on veut se comparer par exemple à l'université populaire, nous avons une convention avec la vraie université, c'est-à-dire que la qualité académique, on va dire, de nos conférenciers est cautionnée par l'université. C'est pour ça qu'on a le droit d'utiliser Université de Bourgogne, alors que l'université cité populaire, elle est tout à fait légitime, mais c'est une association qui est qui n'est pas associée au système public d'enseignement français. Hein, voilà. On a d'adhérents? On a environ 500 adhérents, et on a 120 conférences, 110 conférences par an, et donc pour faire court, c'est tous les jours ouvrables. Hors vacances scolaires du 1er octobre à fin avril. Voilà. C'est pour ça qu'on a un programme qui est extrêmement diversifié, de telle façon que chacun puisse trouver des sujets qui l'intéressent. Voilà. Alors que dans d'autres universités, par exemple à la fac, à Dijon, il y a des cycles, si vous voulez. Vous êtes un fanatique de l'Amérique du Sud, il y a des cycles sur l'Amérique du Sud, vous n'allez qu'à l'Amérique du Sud. Mais vous avez un cycle très complet. Donc nous, on a un système où la variété des sujets est suffisamment large pour que chacun trouve son bonheur, si vous voulez. Voilà. Ça vous convient ? Merci.